Maître Olivia Venet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate de l'association Life for Brussels. Alors cette semaine et au début de la semaine prochaine, plus de 50 témoignages de victimes des attentats du 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles et à la station de métro Malbec sont prévus. Pour commencer, vous qui étiez présente, comment se sont déroulées ces journées depuis le début de la semaine ?
Alors c'est vraiment un nouveau moment dans le procès. C'est une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance, des autres émotions. On laisse maintenant la place aux victimes et la cour leur permet de s'exprimer et leur laisse tout le temps nécessaire pour s'exprimer et pour nous raconter ce qu'elles ont vécu ce jour-là, ce qu'elles ont vécu depuis, pour elles, pour leurs proches, pour leurs familles, les proches de personnes décédées, des personnes qui ont été blessées directement, des proches de personnes blessées. Et elles peuvent vraiment venir nous exposer, c'est extrêmement émouvant. Et voilà, j'admire le courage de ces victimes qui parviennent à venir nous raconter ce qu'elles ont vécu. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions.
Vous parlez justement d'émotions. Quelle est l'ambiance dans la salle d'audience au moment d'entendre les récits glaçants des victimes ?
Alors l'ambiance est extrêmement respectueuse. Je dois dire que la cour... laisse vraiment avec beaucoup de délicatesse aux victimes la possibilité de s'exprimer comme elles le ressentent et comme elles en ont envie. Donc c'est aussi différent en fonction des personnalités de chacun. Il n'y a évidemment pas une seule victime, il y a beaucoup, beaucoup de victimes et donc chacune a son propre ressenti, sa propre manière de vouloir exprimer les choses et d'avoir ressenti aussi les choses. Et donc l'ambiance est oui, je sais pas le dire mieux, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'émotions et on sent que c'est important que le jury, que toutes les parties puissent prendre conscience de l'ampleur des traumatismes qui ont été subis par les victimes.
Alors on le sait, depuis le début de ce procès, les accusés ne sont pas du tout coopératifs. Pensez-vous qu'après le récit des victimes, ils le seront un peu plus ?
Alors j'ai un peu du mal à tabler sur les accusés, je vous avoue que je n'attends pas grand-chose d'eux dans ce procès malheureusement. Il faut savoir que pour l'instant, M. Abdeslam n'est pas présent, mais Mohamed Abrini et Oussama Krayem assistent au témoignage des victimes, donc ils ne quittent plus la salle d'audience contrairement à ce qu'ils faisaient auparavant. Mais c'est très compliqué pour moi de dire comment est-ce que ils ressentent les choses ou s'ils vont à un moment ou à un autre, disons, changer d'attitude. Et on prépare aussi nos clients à ça, c'est-à-dire que on ne peut pas attendre trop d'eux vu ce qui s'est passé, vu les faits qui ont été commis. Ce qui est important, c'est que ce procès puisse se passer et que les attentes des victimes soient sur les explications, par exemple toutes les explications qu'il y a eu avec les juges d'instruction, mais aussi sur leur témoignage et l'importance de pouvoir venir déposer ça sur la cour d'assises, qui sont des éléments sur lesquels on a une certaine forme de prise. Ce que les accusés vont décider de dire ou de ne pas dire, ça, ou de participer ou de ne pas participer, ça leur appartient. Et voilà, le jury en tirera les conséquences qu'il estimera devoir en tirer.
Le fait que les accusés soient présents au moment où les victimes s'expriment, est-ce que cela facilite l'expression des victimes ou au contraire ça la durcifie ?
Alors, je pense que c'est important pour les victimes qu'ils entendent, mais c'est extrêmement difficile pour elles de savoir qu'elles sont confrontées aux accusés. On a eu un témoignage de Loubna Selassiyer qui était très émouvant et elle a aussi interpellé les accusés elles-mêmes. Mais on voit, c'est retransmis sur les écrans, on voit son regard. Je vois on voyait qu'elle avait même de la peine à les regarder et à se confronter même visuellement à eux. Donc, je pense que c'est important pour les victimes qu'ils puissent les entendre, mais il faut se rendre compte de l'émotion que ça représente pour eux de se dire. Ils sont là dans la même salle que moi avec tout ce que j'ai subi et parfois il y a encore énormément de colère, de douleur, de souffrance. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes parcours. Je pense que c'est important qu'ils l'entendent, mais c'est très, très difficile pour certaines victimes de se confronter à eux. Et je pense aussi que certaines victimes restent hésitantes par rapport au fait de venir témoigner, par crainte, effectivement, de devoir être confrontées aux accusés, de se retrouver aussi dans ce cadre extrêmement formel de la cour d'assises. C'est une démarche qui reste quand même difficile. Mais je pense que c'est un soulagement après pour les victimes de savoir que les accusés ont dû les entendre et ont entendu ce qu'elles avaient à dire. Et quelque part, oui, ça peut contribuer sur leur chemin à leur permettre d'aller vers un mieux-être.
Justement, vous le disiez, cela demande un courage très fort de venir témoigner pour ces victimes. Vous vous confrontez encore à des refus de victimes qui n'arrivent pas à passer le cap, pour qui ce sera trop dur de venir témoigner à la barre ?
Oui, tout à fait. Alors, il y en a qui avaient demandé à le faire, qui ont changé d'avis plusieurs fois, qui ont dit, alors qu'ils se sont dit, moi, je vais le demander, comme ça, au moins, je serai prévu. Et puis, qui, au moment où ça arrive, disent, en fait, je n'y arriverai pas, je n'aurai pas la force, je n'y parviendrai pas. On a encore eu un cas hier. Oui, donc, effectivement, certains ont beaucoup d'hésitations et se demandent s'ils vont être capables de le faire, avoir la force de le faire. Il faut beaucoup de courage pour ça. Et donc oui, il y a encore des personnes qui là se disent non, moi je n'ai pas envie. Alors il y en a qui dès le départ ont dit moi ça m'intéresse pas, j'ai pas du tout besoin de ça dans mon parcours. Voilà, je vous le dis, hein, chaque parcours est, et il faut respecter ça. Chaque parcours est différent. Il y en a d'autres qui se disent je pense que je voudrais le faire, mais maintenant que la date approche. On sent que c'est extrêmement anxiogène, là, que la pression monte et que la pression monte, va monter jusqu'au jour du témoignage. Et nous, on sera là, bien sûr, pour les aider, pour les encadrer, pour être à côté d'eux et pour leur dire, ben voilà, si vous n'y arrivez pas, ben vous n'y arrivez pas. Mais si vous êtes là, ben on sera là, nous aussi, avec vous.
Alors, vous parliez d'un témoignage tout à l'heure, je vais en parler d'un autre. C'est un témoignage de Nidhi Chapekar,
Oui.
venue spécialement d'Inde pour le procès. Elle était hôtesse de l'air à l'époque.
Oui.
C'est ce genre de témoignages qui permettent de faire avancer le procès.
Je pense que c'est extrêmement important. Alors, vraiment, je crois qu'elle nous a donné une réalité de ce que ça a pu représenter pour les victimes, ces attentats. Le fait aussi qu'elle fasse effectivement cette démarche de venir d'Inde pour venir parler, pour venir exposer, mais aussi ce qu'elle a raconté par rapport à sa famille qui était en Inde au moment où forcément elle a été victime de l'attentat et toute cette angoisse pour cette famille, je crois que ça donne une réalité pour le jury, pour la cour, pour nous, avocats aussi, qui, bon, nous, les avocats de partie civile, on les a entendus, les récits de nos clients, mais pour les autres parties, c'est essentiel que cet aspect-là soit dit dans le cadre de la cour d'assises et soit exposé à ce moment-là, dans ce procès, et que ce soit entendu publiquement par toutes les parties.
Je l'ai dit en introduction, les témoignages des victimes se tiendra jusqu'au début de la semaine prochaine. Quelles sont les prochaines étapes dans le procès, Maître Olivia Venet?
Alors, il y a encore d'autres témoignages de victimes prévus après, hein, parce que j'allais regarder l'horaire en même temps que vous me posez la question, mais c'est un peu plus tard que le début de la semaine prochaine. Après ça, il y a encore d'autres témoignages qui sont prévus, puis il y aura bien sûr un moment important, mais l'horaire n'arrête pas de changer, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué. Ce sera bien sûr l'interrogatoire des accusés, qui en principe se passe au tout départ, mais qui n'a pas eu lieu ici, comme on le sait, en raison de ces problèmes liés au transfert et cette procédure en référé. Et donc, on attend bien entendu aussi avec une certaine impatience, et c'est assez particulier pour les victimes d'avoir dû témoigner avant même que les accusés étaient interrogés, cette partie-là du procès qui sera l'interrogatoire des accusés et ce qu'ils voudront bien nous dire.
Justement, on a l'impression que depuis le début du procès, rien ne sortira de leur bouche. On peut s'attendre à ce qu'ils parlent ou ils resteront feutrés dans le silence?
Alors, d'abord, je pense pas qu'ils vont tous adopter la même attitude. À mon avis, il y aura des différences de l'un à l'autre. Et franchement, à ce stade, moi, je ne vais faire aucun pari et on verra. Je veux à la fois ne pas avoir trop d'attentes par rapport à ce qui sera dit. Je pense qu'on a laissé entendre aussi à un moment que ce serait c'est vrai que c'est un moment important, bien sûr. Est-ce qu'ils vont vouloir nous dire des choses à ce moment-là? On verra bien. Mais je ne veux pas qu'il y ait de la part de nos clients trop d'attentes. On verra bien ce qu'ils nous raconteront et on en tirera les conséquences qu'on va en tirer.
Pour finir, que peut-on espérer pour les victimes? Uniquement une réparation morale?
Alors, la réparation financière, elle est nécessaire pour beaucoup de victimes aussi. Il y a des victimes, alors de nouveau, il y a 1000 histoires différentes en fonction de chaque parcours. Certaines ont été indemnisées financièrement, d'autres ne l'ont pas été intégralement pour des problèmes avec les assurances. Donc, ça fait l'objet aussi d'autres procédures. Mais c'est sûr que ce procès, dans leur parcours, est un moment extrêmement important pour. Alors, tourner la page n'est pas le bon terme, parce qu'on ne tourne jamais la page d'une expérience comme ça. On vit avec. Et on essaie de continuer à vivre avec. Mais donc, ça fait partie d'un processus. Et ce sera clairement, lorsqu'on aura traversé cette épreuve-là, ben, peut-être qu'on va pouvoir continuer, qu'elles vont pouvoir continuer à avancer sur leur chemin, j'espère, plus sereinement.
Maître Olivia Venet, je rappelle que vous êtes avocate de l'association Life for Brussels. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Avec plaisir. Merci à vous.